Parlons un peu de votre santé sexuelle. C'est sûr qu'au cours des derniers mois, on a pu voir le nombre de cas d'infection transmises sexuellement se calmer un peu. Mais là, depuis la deuxième vague, c'est reparti à la hausse. Les dernières semaines, on s'est en tout vu une reprise de l'activité sexuelle, puis peut-être que un peu sans protection, ça a peut-être été le choix de certaines personnes. Je voulais en discuter parce que ce sont quand même des maladies à ne pas prendre à la légère. On en parle très, très peu des ITSS, c'est-à-dire des maladies, des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Il est expert en santé sexuelle, vous le connaissez bien, le docteur Régent Thomas est avec nous. Bonjour, Régent Thomas. Régent, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Oui, bonjour Régent. Bon, okay. On voulait parler avec vous là, de cette recrudescence oui. du nombre de cas d'infection. Oui. Pouvez-vous nous dresser un peu le portrait de la situation?
Bien, en fait, c'est assez étonnant. Depuis le début de l'année, il y a une hausse importante de cas qu'on voit nous autres à l'actuel, surtout de la gonorrhée et de la syphilis. On sait que la syphilis, c'est une maladie qui était extrêmement rare là, au début des années 2000. En 98, je pense qu'il y avait 3-4 syphilis dans tout le Québec. Et on traite actuellement, quand je dis on traite, parce qu'on traite aussi les contacts, hein, si je compare à l'an passé, on est presque au double. Donc, près de plus ou moins 80 personnes par mois qu'on injecte de la pénicilline pour ceux qui sont allergiques pour la syphilis. Alors, ça peut être soit une syphilis classique ou un contact, mais c'est quand même le double. La gonorrhée aussi, beaucoup, beaucoup augmenté. Dans certains mois, plus de 50%. Ce qui est étonnant, Isabelle, tu dis, on avait vu une baisse. Nous, on n'a jamais vu de baisse.
Ah non? OK.
Non. Même pendant la pandémie, au mois d'avril, là, ça a été le plus gros chiffre de syphilis qu'on a eu depuis longtemps. Mars, avril, mai. Et faut dire que s'il y a peut-être une baisse dans les données de santé publique, mais c'est sûr qu'on a fermé les centres de prévention, hein. Pendant deux mois, des mois. Donc, si on ne fait pas de test, on n'a pas de positif. Nous, les gens qui viennent, il y a deux sortes de personnes. Les gens qui sont inquiets parce qu'ils ont eu plusieurs partenaires. Par exemple, ce matin, j'ai un hétérosexuel qui a une copine m'a appelé pour une gono. Donc, un contact. C'est ça qu'on appelle un contact. On le traite. On fait le test de dépistage. Mais là, tu as eu combien de partenaires depuis fin juillet? Environ une douzaine.
Il est avec quelqu'un?
Non. Okay. Donc, sans condom la plupart du temps. Il y a toutes sortes de choses qui se vivent pendant la pandémie qui est difficile à comprendre. On a beaucoup dit aux jeunes qu'ils n'étaient pas à risque de la COVID, et avec raison. Mais on n'a pas dit de faire attention. Tu sais, quand Dr. Tam, tu te souviens de la santé publique, disait « Mettez-vous un masque ». J'ai pas entendu dire « Mettez un condom » non plus, tu sais.
Ouais.
Donc il y a une augmentation importante des ITS dans la dernière année. Et ce qui est préoccupant, c'est de voir cette augmentation actuelle. Et ce qui est préoccupant, c'est aussi si on arrête de faire des tests de dépistage, parce que la plupart des ITS là n'ont quand même pas de symptômes.
Ouais, c'est ça qui est inquiétant.
Elles peuvent être graves. Gonorrhée, chlamydia, ça cause des salpingites, l'infertilité. Syphilis chez les femmes enceintes, il y a quand même plusieurs enfants, 5 ou 6 qui sont nés avec la syphilis au Québec dans les dernières années. C'est des maladies graves qui peuvent donner des atteintes neurologiques et tout ça. Alors, moi, je suis très préoccupé par la situation que si on ferme tous les centres de dépistage, qu'il va y avoir des dommages collatéraux assez importants pendant longtemps. Mais effectivement, on est débordé par la syphilis et la gonorrhée actuellement.
La syphilis, d'ailleurs, qui est une ITSS qui était pratiquement éradiquée là, depuis les dernières années. Là. C'était rare, quand même, des cas de syphilis au Québec.
C'était rare, mais depuis les 5 dernières années. Tu sais, il y a 5-6 ans, je pense qu'on était rendu à 500. Les derniers chiffres, on est à 1000 par an. Avec ça touche plus les hommes, ça touche aussi les femmes. Le danger chez les femmes enceintes. Normalement, les femmes enceintes ont un test, en tout cas au moins au début de grossesse, idéalement au début et à la fin, parce que l'épidémie est quand même assez importante. Et oui, c'est une maladie qui n'existe presque plus. Je m'en souviens moi à la fin. Au début des années 80, on en voyait beaucoup, puis à la fin des années 90, on en voyait presque plus. Je pense que je suis un des médecins qui a eu le plus de syphilis au Canada.
Oui, de cas de syphilis, oui.
Puis je veux dire, il y a deux problèmes aussi qui se rajoutent, Isabelle. La consultation téléphonique en santé sexuelle, c'est pas terrible.
Mais c'est ce que j'allais dire. Faut voir le patient, donc ça, c'est pas évident.
Ben,
faut connaître les symptômes. C'est des maladies dont on parle peu. Hein. Il y a encore un tabou sur les maladies, ce qu'on appelait les maladies vénériennes à l'époque. Là.
Moi, j'ai deux histoires. J'ai un patient qui a eu 3 consultations téléphoniques. Il y avait une syphilis, il y avait un rash, qui, pour moi, c'est un classique. Là. Il rentre dans le bureau, puis il sait que c'est une syphilis. Il y a eu 3 consultations téléphoniques, une avec un dermatologue qui voulait lui faire une biopsie. Et finalement, le troisième m'a pensé à faire le test de syphilis, mais quand c'est venu le temps de le traiter, la clinique était fermée, il y avait ni médecin ni infirmière. Donc, finalement, il s'est fait traiter ici. Donc, l'accès à un médecin est difficile par les temps qui courent. Beaucoup de gens aiment ça, là, les consultations téléphoniques. Mais il y a quand même des dangers aussi. C'est pas pour tout. Puis en santé sexuelle, le dépistage est important. J'ai un autre patient qui avait un rash classique aussi, qui est allé à l'urgence. Le médecin lui a dit qu'il faisait une allergie, il l'a référé à un allergologue. Le patient a dit, j'aimerais ça faire un test de syphilis. Le médecin a dit non, c'est inutile. Donc, on lui a pas fait son test de syphilis alors qu'il y avait une syphilis secondaire. Lui, il s'en doutait parce qu'il connaissait un petit peu les symptômes. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, puis c'est vrai que écoute, on voit tellement de détresse à la clinique, là, les gens sont tellement dépressifs, sont tellement anxieux ce matin, là, c'est incroyable, je sais pas si c'est en lien avec la nouvelle d'hier, mon Dieu, les gens sont anxieux, on n'a pas accès à des ressources en santé mentale, donc, je sais pas s'il y a un lien. On voit qu'il y a une augmentation de la consommation d'alcool, consommation de drogue, puis on voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de partenaires sexuels. Ouais. Puis il faut bien comprendre que ces maladies-là se transmettent. Ces maladies-là se transmettent par relation orale, hein.
Mais c'est ça, puis les gens se sont fait dire, parce qu'on nous a dit finalement, puis c'est une vraie question, est-ce que c'est vrai que la COVID se transmet pas sexuellement?
Ben, c'est intéressant parce qu'on fait un petit projet avec le CIUS du Centre-Sud. On a commencé, on n'est pas une clinique COVID, je vous dis tout de suite, si vous avez des symptômes, venez pas. Mais on a commencé à offrir des tests COVID à notre clientèle qui n'ont pas de symptômes.
Mm-hmm.
Donc, on va pouvoir voir un petit peu, ça va être intéressant de voir les données, s'il y a un lien avec le nombre de partenaires, etc., à notre clientèle qui est plus à risque, mais qui n'a pas de symptômes de COVID.
Ce que disait la santé publique du Canada à l'époque, en même temps, quand il disait aux gens, ben prenez votre mal en patience, en pratiquant du sexe virtuel à distance, ça n'a jamais fait des enfants forts, ça, tellement, hein, le sexe virtuel, ou alors porter un masque. Il y a même eu la suggestion de mettre un mur entre soi et son partenaire. Ouais, je peux pas croire qu'ils ont vraiment suggéré ça. Mais en gros, on disait, tous ceux qui ont des symptômes ou qui ont été exposés au virus ou qui doivent s'auto-isoler devraient faire preuve d'abstinence en matière de relations sexuelles. Ça non plus, il y a beaucoup de gens, là, puis peut-être qu'on peut demander aux auditeurs comment ils l'ont vécu. Là. Puis on va voir si les gens se sentent à l'aise d'appeler. On dira pas votre nom, puis on peut changer, bien sûr, on donnera pas d'infos très personnelles, mais dites-moi si... Tu sais, on avait quand même dit pas de contact sexuel. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints aussi, là, du fait qu'ils voyaient pas leur conjoint, conjointe, s'ils habitaient pas au même endroit. Fait que ça se peut que...
Puis les gens qui vivent seuls, l'isolement.
Oui, exactement.
Les personnes qui vivent seuls, on a beaucoup parlé des familles pendant la COVID, des grands-parents puis leurs petits-enfants. On a peu parlé des gens qui vivent seuls. Alors, cet isolement...
Les gens, ils s'arrangent comment, tu sais, Réjean? Tu sais, on parle des gyms, des restos, mais s'il y a bien quelque chose qui est naturel, c'est avoir des rapports sexuels. J'aimerais ça savoir des gens, d'ailleurs, comment vous vous êtes arrangés. Êtes-vous allé... vous êtes-vous dit, à un moment donné, bon, on laisse tomber le condom, à un moment donné, là, regarde, on fait ce qu'on a à faire. 514-790-9850 pour nous joindre à Montréal. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Puis on parle entre nous sans tabou, là, vous gênez pas pour nous appeler. On a le docteur Réjean Thomas, il est habitué à ce genre de sujet. Mais c'est vrai que c'est tabou. C'est bien le genre d'affaires dont on ne parle pas, ça, en ce moment.
Il y a un autre phénomène. Les gens sont à la maison.
Oui.
Donc les gens sont à la maison. C'est assez facile, semble-t-il, pour les hommes de faire des rencontres sur Tinder, Grindr, qui sont les principaux réseaux où les gens se rencontrent. Et pour ceux qui n'ont pas peur de la COVID, et il y en a beaucoup, particulièrement chez les jeunes, alors ça donne des rencontres assez facile, avec beaucoup de temps à rien faire et d'être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Mais visiblement sans protection, Réjean.
Beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de sans-protection depuis des années, là. le condom. Je veux dire, moi, des gens qui me disent qu'ils mettent le condom à 100%, là, c'est très rare, hein? C'est très, très rare.
Dans quelles conditions dis-nous un peu, là, petit cours de santé sexuelle 101, ouais. Dans quelles conditions doit-on se protéger? Ou dans quelles conditions peut-on laisser aller la protection, plutôt?
Ben, je veux dire, les gens qui sont en couple depuis un certain temps et qui se font confiance, si on est en couple, d'abord, quand on a un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, on devrait laisser passer une certaine période qu'on appelle d'incubation, là, parce que si tu vas passer le test aujourd'hui puis que tu as fait l'amour hier, le test n'est pas bon. Donc, moi, je recommande toujours à les gens qui sont en couple, qui veulent, surtout ceux dans les personnes qui sont plus à risque, donnez-vous un 3 à 6 mois avant de vous connaître. Donnez-vous un, tu sais, souvent on apprend des choses après 3 mois.
Ouais.
Donc, donnez-vous un 3 à 6 mois avant de voir si vous connaissez, si votre partenaire est fiable. Et là, on refait les tests de dépistage et si tout est beau, ben sinon, ben il y a toujours des risques. Après, ça dépend. Il y a des gens qui ont des nombres de partenaires assez élevés. Il y a des gens qui se protègent à 20%, à 30%, à 40% selon différentes situations. Il y a les gens font beaucoup confiance encore à la personne. Puis ça, ben ça souvent ça amène des troubles parce que c'est un peu difficile de faire confiance en un premier soir, en tout cas une première rencontre. Mais ça se fait encore beaucoup, hein, les gens ont confiance. Dans la communauté...
Tu rencontres quelqu'un sur Tinder, puis tu baises avec tout de suite le premier soir, pas de protection?
Ouais. Dans la communauté gay, il y a la PrEP, qui est le traitement qui prévient le VIH. Donc, il y a une partie de la population qui sont sous PrEP, qui, comme avec ce traitement-là, ils peuvent pas contracter le VIH, ont baissé un petit peu les bras, mais les bras étaient baissés même avant l'arrivée de la PrEP. L'augmentation des ITS, elle touche tout le monde. Elle touche la communauté gay, mais elle touche aussi les hétérosexuels, puis elle touche surtout les 15-24 ans. C'est 50% des cas, c'est les 15-24 ans. Donc, on peut pas dire que c'est à cause de la PrEP, peut-être pour un certain groupe, mais pas pour toutes les ITS, certainement pas.
Ouais, c'est vraiment les jeunes, alors, hein? C'est 50% des cas.
La prévention, donc, le danger de cesser la prévention, c'est clair. Puis les jeunes qui souffrent de détresse, on le dit, puis d'anxiété, il y a peut-être un lien aussi avec la sexualité.
Ouais, tout à fait. On va s'arrêter ici, très courte pause. On est en compagnie du docteur Régent Thomas, qui est médecin, entre autres à la clinique L'Actuelle. Il est expert en santé sexuelle. Si vous avez des questions générales, bien sûr, vous pouvez lui poser après la pause. Puis je vais vous entendre là-dessus. Avez-vous été en mesure de garder des contacts sexuels? Est-ce que quand cet été, ça s'est un peu déconfiné, vous êtes-vous lâché lousse un peu, puis dire « Wouhou, let's go, on y va », puis on oublie de se protéger. Puis c'est drôle, on a aussi certaines perceptions. On y reviendra avec le docteur Régent Thomas, mais il y a certaines pratiques sexuelles, on a l'impression que c'est correct d'utiliser notre bouche parce que c'est pas forcément comparé à un rapport complet avec pénétration, mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de fausses idées. Chez les jeunes, entre autres, on voit une augmentation des cas de maladies transmises sexuellement dans la bouche, là, des ulcères. Peut-être que ça manque aussi l'éducation sexuelle. Hein? On n'a toujours pas de cours d'éducation sexuelle bien clair à l'école. Bref, tout ça, c'est un bon sujet de discussion. Je vous lance l'idée. 514-790-9850 de l'extérieur. Vous faites le 1-866-790-9850. On parle de cette hausse importante, inquiétante aux yeux du docteur Régent Thomas, qui est expert en santé sexuelle, des maladies transmises sexuellement et par le sang. Et puis, c'est sûr qu'on peut se dire, il me semble qu'on avait dit pas de contact. Évidemment, on nous a beaucoup dit réduisez vos contacts. Les contacts sexuels font partie des contacts humains. Alors, chacun, à un moment donné, gère ça comme il l'entend. Quand on a déconfiné cet été, beaucoup de gens ont cru bon là, de au moins avoir une certaine reprise de leur vie sexuelle. Pierre, bonjour. Je pense que vous avez été bénévole pour une ligne d'écoute, puis vous déplorez le fait que quand il s'agit d'entendre les gens sur les questions de sexualité, on ne sait pas où les référer, c'est bien ça?
En fait, c'est pire que ça. Je pense qu'il y a un résidu de fond de morale judéo-chrétienne. C'est-à-dire que moi, j'avais des cas où je recevais je me souviens d'Aplante là, qui m'appelait, qui me disait « Bon, ben là, j'ai participé à un gangbang. » Je suis enceinte. Puis là, elle coupait la ligne parce qu'elle savait, la personne, que dans son dossier, il y avait mention, de nous d'arrêter l'appel. Donc, j'avais même pas le temps de la référer vers une clinique pour les ITS ou vers un service psychologique. Il faut vraiment former nos gens qui sont des écoutants, des écoutantes et des coordonnateurs, des coordonnatrices de ces lignes-là pour ne pas couper les gens qui appellent avec un contenu de détresse sexuelle. Mm-hmm. Et ça, là, on est loin là-dedans, là, parce que j'ai été intervenant en santé mentale. Donc, moi, j'étais bien à l'aise d'écouter son contenu puis de la référer, mais je pouvais pas le faire parce que la fille, elle appelait à tour de rôle puis elle coupait la ligne parce qu'elle savait qu'elle avait pas le droit de le faire.
Vous parlez de détresse sexuelle, Pierre?
Pardon?
Vous parlez de détresse sexuelle, carrément?
Ah, ben oui. Écoutez, quand quelqu'un vous appelle puis vous dit, écoute, c'est mon mode de vie, je participe à des expériences sexuelles à plusieurs, je suis enceinte. Écoutez, les gens sont en détresse, puis ils savent pas où aller. Puis aux lignes d'appel, ben on dit, c'est marqué même dans le dossier, là, ne parlez pas avec cette personne-là, coupez la ligne, ça vous appelle. Écoute, ouais, non, okay. Quand il y a une détresse sexuelle, elle doit être adressée comme tous les autres problèmes de santé mentale et de détresse qui nous sont adressés lors
Merci.
De...
Merci beaucoup, Pierre. Je veux poser la question au docteur Thomas. La détresse sexuelle, Régent Thomas, c'est en ce moment, en temps de COVID, là, c'est tangible? C'est un
fait? Ben, c'est une question qui se pose. Juste rajouter ce que le monsieur vient de dire. Il y a encore tellement de stigmatisation, là, même chez les professionnels de la santé. Tu sais, j'ai encore des patients qui arrivent et qu'ils ont dit qu'ils étaient gays au médecin. Le médecin est mis tout mal à l'aise. Ça existe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, bon, à Montréal, il y a des cliniques au centre-ville, c'est correct, mais tout le monde n'a pas accès à ce même genre de service. Puis effectivement, il y a beaucoup de détresse qui amène des comportements sexuels qui peuvent être graves pour eux. Ok. Quand on voit les gens en dépression, souvent, ces gens-là sont les premiers à cesser l'utilisation du condom parce qu'il y a un problème d'estime de soi. Il y a beaucoup, entre autres, dans la communauté gay, il y a un gros problème d'estime de soi et il y a beaucoup de détresse dans la communauté LGBT, Q2, etc. Donc, il y a beaucoup de... Les femmes aussi, on a beaucoup de femmes qui nous racontent... je me souviens de cette femme qui... Vous savez que si vous avez une relation sexuelle et le condom brise puis que vous êtes inquiet du partenaire avec qui vous étiez... Vous pouvez avoir une trithérapie, comme la vraie trithérapie, là, pour un mois. Et ça prévient de plus de 95% le fait de contracter le VIH. Et j'ai une femme qui savait ça, qui avait lu ça sur les réseaux sociaux, puis c'est arrivé un vendredi soir, elle a fait un hôpital, deux cliniques. Pour nous, c'est une urgence. Hein? Ça doit être dit immédiatement, parce que si on arrête trop, c'est plus efficace. Puis quand elle est partie de la clinique, elle a dit, je vous remercie tellement, tout le monde ici, le personnel, tout le monde a été, je vous dirai pas comment j'ai été traité ailleurs.
Ouais,
donc, la stigmatisation de la sexualité des femmes aussi, ça existe encore. La communauté gay, puis aujourd'hui, maintenant, ben, il y a les gens, on voyait pas ça avant, on voyait gay ou hétéro ou bisexuel, mais maintenant, les gens se définissent comme queer, comme pansexuel, comme... il y a toutes sortes de choses qu'on voyait pas à l'époque. Alors, faut être assez ouvert pour pouvoir écouter ce discours-là aussi.
Oui, bien les soigner, bien les traiter. On a Samuel qui nous appelle. Bonjour, Samuel.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Ben, dans le fond, je vais commencer par spécifique. Aujourd'hui, la fille de qui je vais parler et moi, on sort ensemble depuis quelques mois. Au tout départ, ça a commencé, dans le fond, par une rencontre Tinder, ce qui est un drôle d'ado parce qu'en dehors du COVID, pas de confinement, on n'aurait jamais été sur ces sites-là. C'est vraiment juste parce qu'on n'avait pas le droit de sortir pour se rencontrer qu'on s'est ramassé là. Donc, au début, ça cliquait très bien. On avait comme une bonne énergie, puis ça allait très bien entre nous deux. Puis quand est venu le temps, justement, de passer à l'acte, moi, au préalable, avant même de la rencontrer, j'avais été passer mes tests pour les MTS, mais il me restait un test à terminer pour avoir mes résultats. Donc, j'avais pas encore reçu le résultat la première fois qu'on a décidé de le faire, mais on s'est protégé justement à ce niveau-là pour au cas où j'aurais quelque chose. Finalement, les tests sont revenus négatifs, puis une fois que les tests sont revenus, ben là, on a arrêté d'utiliser la protection. Mais jusqu'à ce moment-là, on faisait très attention à ce niveau-là, là, pour pas justement que je la contamine, parce que je me serais senti assez mal.
Ouais. Et de son côté, elle aussi était sûre d'être
De son côté, elle, dans le fond, j'étais son troisième partenaire à vie. Ses deux anciens partenaires, son premier chum, qui est une relation de plusieurs années, puis son deuxième aussi, qui est une relation qui a duré longtemps. Puis à son niveau, elle, je lui ai fait surtout confiance à ce niveau-là, là, mais...
Ça en prend un seul, hein? Des fois, ça en prend un seul. Merci, Samuel, oui. Merci bien. C'est intéressant, Régent Thomas. Des fois, on dit, ah, pas eu beaucoup de partenaires sexuels, mais ça en prend un.
Oui, mais c'est sûr que le risque... en fait, ils ont évalué le risque dans leur couple.
C'est ça.
Puis c'est intéressant. Lui, il est allé au moins. Mm-hmm. Il y avait eu plus de partenaires et... elle était effectivement à plus faible risque.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en sont parlé aussi. C'est ça qui est bien, c'est que Samuel a eu cette discussion avec sa conjointe, sa nouvelle conjointe. Ils s'en sont parlé. Et combien de gens s'en parlent dans le couple véritablement? C'est encore un tabou, la sexualité dans un couple.
Les gens viennent après quand il y a un problème. Tantôt, tu parlais des ITS dans la gorge.
Oui.
C'est extrêmement important quand on se fait tester d'avoir un prélèvement de gorge. Souvent, les gens n'ont pas de prélèvement de gorge. La gonorrhée, la chlamydia se trouvent dans la gorge.
Beaucoup de jeunes aussi pensent que...
Beaucoup. Alors, donc, la fellation, donc, gonorrhée gorge, principalement les jeunes filles et les homosexuels, un peu moins chez les hétéros, hommes hétéros, mais chez les femmes et les gays, on voit beaucoup de gonorrhée et de chlamydia dans la gorge. Et la syphilis peut se transmettre aussi par des relations orales aussi.
Oui, bon, alors, on fait attention où on met notre bouche.
Oui.
C'est ça.
Isabelle.
En terminant, oui.
Oui, en terminant. Est-ce qu'on termine? Oui, OK.
On termine, oui.
Faut que j'aille voir mes patients.
Ben oui, je sais bien, mais tu voulais rajouter quelque chose, Régent?
Non, je voulais rajouter que c'est important. Ne baissons pas dans la prévention.
Voilà, c'est ça.
Ne baissons pas dans la prévention parce qu'on va tellement le regretter. On n'a pas parlé de VIH, mais nous, dans les 6 derniers mois, là, on a 50 nouveaux patients VIH à l'heure actuelle. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles infections, mais c'est des patients qui n'avaient pas de médecin de famille, qui arrivent d'ailleurs, ou de la Colombie-Britannique, ou tout ça. Donc, il faut être ouvert. Les consultations téléphoniques à ses limites, en santé sexuelle particulièrement. Et la dépression aussi. La dépression, quand je te dis que moi, j'ai un patient sur 3 qui a perdu son emploi, là, je peux te dire que le stress et la détresse que je vois dans mon bureau, là, c'est assez hallucinant. Je ne dis pas que les ressources en santé mentale, c'est un autre sujet, mais ça va avec la santé.
Mais c'est le même sujet, puis on en parlait en première heure aussi.
Les ressources en santé mentale ne sont pas suffisantes. Le gouvernement parle de santé mentale sans arrêt tous les jours. Mais les ressources sont totalement insuffisantes dans le système public, sauf si tu as les moyens de te payer un psychologue. Ça fait qu'on fait quoi? On prescrit des antidépresseurs puis des pilules pour calmer l'anxiété.
Qui a des coûts aussi. Ça a des coûts, là. C'est pas gratuit, ces pilules-là.
Exactement, oui, t'as raison.
Régent, merci beaucoup. Puis c'est un peu pour ça que je voulais qu'on te parle ce matin, parce que comme expert en santé sexuelle, t'es la meilleure personne pour nous rappeler toutes ces mesures de prévention. La COVID prend tellement toute la place qu'on oublie ces autres maladies qui font effectivement beaucoup de dommages. Merci beaucoup. Docteur Régent Thomas était avec nous.
Merci, Isabelle.
Merci bien. On s'arrête ici, très courte pause. Justement, tellement écœurie puis découragée qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que, surtout en ville, on dirait que tout ce qui se passe, ça nous frappe plus vite ou plus fort quand on est dans un centre urbain, parce que il y a tellement d'habitudes d'activités que là, on voit personne. Vous vous souvenez, les premiers jours, les premières semaines au centre-ville de Montréal, désert. On avait l'impression que c'était le film de Will Smith, là, où il était le dernier survivant sur la planète. Là. Et beaucoup de gens, depuis, on se sont dit, on va aller à la campagne respirer dans la nature. Et là, ça se confirme. Il y a 42 % des Montréalais, entre autres, qui auraient envie d'aller ailleurs, vivre ailleurs, quitter la métropole. Est-ce que c'est votre cas? On va parler à des gens qui ont fait le move tout de suite après ceci. Je suis seul.
Je me sens seul.